à tous et bienvenue dans La Note Originale, l'émission consacrée aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver pour cette année 2022 pour une nouvelle émission en compagnie de mes fidèles chroniqueurs Anaïs, Paul et Henri. Comment ça va tout le monde? Bonne année!
Bonne année!
Exactement, on va défoncer les micros avec cette superbe entrée pour cette belle année 2022. Ça a été le réveillon,
oui.
Le nouvel an.
Oui.
Hâte de commencer cette nouvelle année finalement.
Ouh, il y a encore un peu de gueule de bois par-ci par-là.
Peut-être, c'est le reste de champagne.
Paul est toujours en gueule de bois.
Ah oui, c'est vrai. Cache sur les bouteilles.
Que ça fait un peu de moins un Pinocchio finalement, d'avoir une gueule de bois.
Pas mal.
D'accord, merci. C'est sur cette belle note que nous allons finir notre émission. Non, je rigole. Que nous allons passer à la présentation, Paul, que vous allez avoir aux anecdotes, bien sûr, tout à l'heure. Anaïs, dans quelques instants, avec le synopsis et la biographie du compositeur du jour. Et puis Henri, tout à l'heure, pour l'analyse de cette BO, Alors, qu'on va parler aujourd'hui, on va parler d'un film culte, d'un film qui est sorti il y a déjà un moment. C'était en 2001, je crois.
21 ans.
Maintenant. Harry Potter à l'école des sorciers, réalisé par Chris Columbus et composé par le génial, le cultissime John Williams.
Apparemment, Paul était en train de dire que le film avait son âge.
Non, il a presque mon âge. Il n'a pas tout à fait mon âge, mais 2001, c'est ça?
2001.
Ouais.
2001.
Ouais, il a deux ans de moins que moi.
Cette année, on découvrait l'espace.
Il fallait la faire. C'était. Ah. Il a entendu 2001, il fallait la faire. Stanley, si tu nous entends, Stanley Kubrick, pour ceux qui n'avaient pas vu la petite référence. Voilà. Alors, avant de parler de cette BO, bon, on va s'immerger justement avec un premier extrait, donc avec cette ouverture du film de façon très mystérieuse et mystique. Donc, potion magique, manuel de magie, forêt enchantée, cape d'invisibilité et baguette de sorcier. Bienvenue dans le monde où l'imagination et la magie n'ont pas de limites. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+. Dans la note originale, vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film Harry Potter à l'école des sorciers, composé par ce fameux, ce connu, ce génial John Williams. On ne sait plus comment le nommer à force, hein, le G-W.
À force.
G-W. Johnny Williams.
Tonton Jojo. Grand-papy Jojo, plutôt.
Papy Will.
Allez, on passe sans plus attendre. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on vous invite bien sûr à le voir. On passe sans plus attendre à un synopsis d'Anaïs pour nous apprendre un peu plus sur le film. Je t'en prie, Anaïs.
Orphelin depuis son enfance, Harry Potter a été recueilli à contre-cœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruel que mesquin. qui n'hésite pas à le faire dormir dans le placard sous l'escalier. Constamment maltraité, il doit supporter les jérémiades de son cousin Dudley, garçon cupide et archigâté par ses parents. À l'approche de ses 11 ans, Harry découvre qu'il possède d'étranges pouvoirs, notamment la capacité à faire disparaître des choses, mais également pouvoir parler avec les serpents. Peu de temps après, les Dudley reçoivent une lettre adressée à Harry, qui est invité à intégrer Poudlard, la plus prestigieuse école de magie.
Oui, pas forcément avec ce thème, ce thème génial hein, d'Harry Potter par John Williams. On en parlera tout à l'heure. Là. Ouais. Alors d'abord, concernant le film, les amis, alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez vu au cinéma peut-être à l'époque? Moi, je l'ai vu tout petit au cinéma, j'étais en 6e.
Alors, 2001, je l'ai vu sur le tard. Parce qu'en fait, je connaissais déjà les livres, je les avais pas lus, mais je sais. Et je crois que quand je l'ai vu, le 2 ou 3 était déjà sorti, donc je les ai récupérés. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est en esprit de Noël, on va quand même pas mourir con, on va regarder ça. Et en fait, j'ai kiffé. Et pareil, du coup, j'ai vu tous les films, et c'est que bien plus tard que j'ai commencé à lire les livres, je suis toujours à la moitié du 4.
Ouais.
On rappelle aussi d'ailleurs que c'est issu des livres, hein, bien sûr, de J.K. Rowling.
Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'à la base, Spielberg a été attaché au projet pendant un certain temps, il devait le réaliser. Et c'est parce que lui, il voulait américaniser l'histoire. Que J.K. Rowling en fait lui a dit non, c'est pas possible, je refuse, parce qu'elle avait son droit de veto réel sur l'adaptation. Et comme il a un peu mal pris, visiblement, il a un peu dénigré le projet pendant un certain temps. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fin de compte, celui qui a été choisi pour faire le film est un de ses poulains en fait, qui est Chris Columbus.
Qui a fait Maman, j'ai arrêté l'avion.
Et en fait, c'est drôle parce que sur un point de vue d'esthétique, c'est un film qui a vraiment des passerelles très fortes avec les films que Amblin faisait en fait.
Exactement.
Même. Appréhension de l'aspect magique, c'est John Williams à la ZIC. Je pense que le mec qui a travaillé sur la photo, c'est peut-être un gars qui a bossé de loin, enfin de près ou de loin avec lui. Enfin, je trouve que l'univers, en tout cas, est vraiment bien rendu dans le film. Ça marche toujours pas mal.
Pour le coup, moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, bah, pareil, moi, en fait, je l'avais vu directement dès qu'il était sorti au cinéma. Et ce que j'avais adoré, c'est qu'il s'attardait bien sur la présentation de chaque personnage principaux. Ouais. On apprenait à les connaître, ils apprenaient aussi comme une petite visite guidée de l'école, comme si ça nous intégrait comme un jeune petit enfant qui allait dans l'école.
En plus de
ça, c'est top.
C'est très immersif.
En plus de ça, je trouve qu'ils sont super bien introduits. Là, tu me fais penser à la scène d'introduction de Ron et de Hermione. Je trouve que la manière dont ils sont introduits, ça reflète toute leur personnalité du début jusqu'à la fin.
La première heure et demie, c'est vraiment la. Ils posent. Ils développent les personnages. Ouais. Après, ils te font une sorte de visite guidée de Poudlard.
Ouais.
Et après, tu passes le but, le problème qu'il faut résoudre.
Même si, quand tu regardes le film, il est directement déjà annoncé par la musique.
Ouais.
En fait, t'as un thème qui est utilisé pour la notion du mal, si je peux dire, et que on entend déjà en amont à un moment donné qui n'a l'air de rien, et c'est que après, tu dis oh, pas mal.
Paul, du coup, tu as bien aimé le film?
Moi, j'étais plus jeune que vous, du coup, quand c'est sorti. Donc, moi, j'en garde un souvenir. Le 1, le 2, j'ai vraiment vu, j'étais tout petit. Hein. Le 1, j'ai dû le voir, je devais avoir, je sais pas, 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça.
Ah.
Donc, c'est vraiment des films que j'ai vus tout petit, que j'ai pas du tout saisi à l'époque. Et que j'ai saisi que. Ah, ça te fait mal, hein?
Henri est dépité.
Et que j'ai saisi que plus tard. Après, moi, je sais que le 1 n'est pas mon préféré. J'avais vraiment beaucoup aimé Le Prisonnier d'Azkaban.
Le 3, c'est le mieux. Hein. Alfonso Cuarón, quoi.
Oui. Moi, j'étais en plein dans ma période fantastique parce que je sortais du livre Sacrée Sorcière de Roald Dahl.
Roald Dahl, ouais.
Qui était aussi à peu près dans ce même style.
Roald Dahl, qui, d'ailleurs, pour faire le lien, le pont avec James Bond, vous savez vous savez qui c'est le scénariste de.
On ne vit que deux fois.
Exactement.
Ouais. Exactement. Ah, on y revient toujours, la petite anecdote.
Il a casé son James Bond.
Il faudrait qu'on mette une petite musique à chaque fois qu'il y a une petite. À chaque fois qu'il y a une anecdote dessus.
Le truc de la fin, c'est l'espèce de petit roulement de roulement des cordes.
Bah oui, vous voyez, hein, les émissions se créent au fur et à mesure. Bah, on a des idées en direct dans les émissions, en pleine émission, c'est super, c'est génial. Alors, on va passer. Okay. C'est génial, bien sûr, comme allez, John Williams. Allez, allez. Ça rime pas, mais ça fonctionne. Alors, je te laisse la parole du coup, Anaïs, pour nous parler un peu plus de John Williams, de cette, de sa biographie. Bon, là, on a déjà parlé de Williams à plusieurs reprises. Ça peut être pas de la dernière parce que, bah oui, bah c'est vu toutes les œuvres magnifiques qu'il a composées, c'est sûr.
C'est tout. C'est pas de sa faute. Il y a trop de talent.
On aurait dû appeler l'émission le John original.
Ouais, c'est ça. Le JoJo original. Du coup, je te laisse la parole, Anaïs, pour cette biographie.
Alors, pour ce qui est de John Williams, il est né à New York en 1932 et il est le fils de percussionniste et découvre très tôt sa passion pour la musique.
C'est un drôle de prénom.
C'était qui sa mère du coup ?
Fils de percussionniste.
Le percussionniste.
Et sa mère, elle faisait quoi ?
Excuse-nous, Anaïs.
Non, t'inquiète. Avant ses 10 ans, il joue déjà du piano, de la trompette et du trombone. À 15 ans, il dirige son premier groupe de jazz. John Williams ne vit que pour son art et passe son temps à composer des pièces pour piano. Il étudie principalement à Los Angeles où il apprend l'orchestration. 3 années à l'US Air Force lui permettent de s'essayer à la direction d'orchestre, puis il se perfectionne au piano à la Juilliard School, l'une des plus prestigieuses écoles de musique au monde. C'est comme pianiste accompagnateur de séries télévisées que John Williams démarre sa carrière. Installé à Hollywood, il se retrouve au cœur du monde cinématographique et rencontre de nombreux acteurs, chanteurs, producteurs, compositeurs. John Williams est bien entouré et commence de nombreuses collaborations en tant qu'arrangeur. Son talent est rapidement reconnu, il est désormais sollicité comme compositeur. Dans les années 1970, John Williams compose la musique de film catastrophe à succès, dont le célèbre film La Tour Infernale.
Grave.
Ouais. En 1972, il remporte un premier Oscar pour Un violon sur le toit, adapté d'une comédie musicale. L'année suivante, grâce aux Dents de la mer, John Williams obtient l'Oscar de la meilleure musique et devient un compositeur incontournable du cinéma. Sur les conseils de son ami Spielberg, George Lucas fait également appel à John Williams pour sa grande saga La Guerre des Étoiles. La bande originale devient un immense succès commercial grâce à ses nombreux thèmes s'identifiant aux personnages principaux. Il signe la musique de la plupart des grands succès du cinéma américain, parmi eux Superman, Indiana Jones, JFK, Maman j'ai raté l'avion, Jurassic Park, La Liste de Schindler et Harry Potter. En dehors des musiques de films, John Williams s'est essayé à de nombreux styles musicaux. Après avoir écrit des œuvres de jazz dans les années 1950, le compositeur se lance dans une musique plus classique. Doté d'une culture musicale sans limite, il n'hésite pas à s'inspirer de grands compositeurs de musique classique tels que Mendelssohn, Tchaïkovski ou Richard Wagner.
Stravinsky, énormément Stravinsky.
Ouais.
Et Holst aussi.
Ouais, Holst beaucoup, ouais.
Ouais. Il use du leitmotiv qui permet d'identifier des personnages et des situations. Avec lui, la musique tient une place majeure dans chaque production. Interagissant avec les images, elle prépare le spectateur à chaque action. Son orchestration unique crée une atmosphère propice à chaque événement et tient le spectateur en haleine. Le traitement de ses thèmes fait de lui un compositeur de premier plan, avec d'autres compositeurs comme John Barry, Ennio Morricone, Maurice Jarre ou encore Elmer Bernstein. Il a grandement contribué à populariser l'usage de l'orchestre symphonique dans la musique de film.
Ouais, ce grand JW. Et puis,
malheureusement, dans tous ceux que tu as cités, ben, William, c'est le dernier, quoi.
Ouais.
Survivant. Ouais. Je suis une légende.
Bah ouais, bah lui, pour le coup.
C'est ça. Vraiment, hein, mais... Pour le coup, c'est une vraie légende.
Lui, le jour où il partira, là, ça sera va faire vraiment. C'est ce gros livre-là qui se fermera. Alors après, la musique de film ne sera pas finie, hein, mais.
Ouais, je crois aussi, ouais. Merci beaucoup Anaïs pour ce synopsis et cette biographie. Avant de passer aux anecdotes de Paul et l'analyse d'Henri, on va s'écouter un deuxième extrait. On a choisi le titre Leaving Hogwarts, qui peut se traduire par le départ de Poudlard. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, Poudlard n'existe pas aussi en version originale. C'est vraiment l'adaptation française, ça s'appelle Poudlard en français, mais en anglais on dit Hogwarts. Une composition pleine de mélancolie, assez caractéristique du style John Williams, qui nous embarque encore une fois dans un monde fantastique et magique, celui d'Harry Potter. Thank you. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans la note originale, vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Harry Potter à l'école des sorciers, composé par le grand, le magnifique, le génial John
Michael
Williams.
Cameron.
Michael Cameron. Jules. Ça aurait été autre chose. Hein. Il y aurait beaucoup de comment on appelle ça, de vocoder. Non, de
vocoder, ouais.
Le l'autotune, ouais. Il y aurait beaucoup d'autotune. Ta la 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 la.
Ça aurait été différent. Avec un wesh alors qui passe derrière.
Wesh alors.
Wesh alors, Poudlard. Bah, c'est quoi les
bails? Je connais juste le nom, j'ai jamais écouté.
Jules, si tu nous écoutes, on t'aime beaucoup.
On te fait un bisou.
Allez, du coup, on passe du coup aux anecdotes de Paul qui sont de meilleure qualité forcément que celles de Jules.
C'est vrai que Jules fait rarement l'émission la note originale.
Ouais, c'est vrai. Alors,
t'inquiète, même si je suis sûr, ça serait pas ouf. Hein.
Je viens vous apporter un peu de magie sans même utiliser ma baguette.
Attention, hein, arrêtez avec vos titres.
C'est un peu mal.
Comme on sait que toi, t'as à peu près 12 cordes vocales, tu es capable de faire l'autotune. Du coup, c'est ça.
Évidemment, je suis capable d'imiter l'autotune.
Alors,
tout comme je suis capable d'imiter une voix beaucoup plus grave.
Comme je le fais exactement maintenant.
Ouais, effectivement.
C'est comme Chuck Norris. C'est l'autotune, c'est Chuck Norris.
C'est impressionnant, il faut le dire. Oui.
Du coup, les anecdotes.
Alors.
Oui.
Donc, je viens vous apporter un peu de magie dans cette émission avec mes petites anecdotes croustillantes, toutes sorties du four. Je vais commencer ma petite chronique. Hein.
Alors, tu peux le refaire sans l'autotune maintenant ?
Je peux effectivement le refaire sans l'autotune.
Voilà, c'est bon.
Mon premier est un remplaçant potentiel du professeur Rogue et il s'agit de Tim Roth, qui aurait pu jouer le professeur Rogue, tandis que Rosie O'Donnell aurait pu jouer Madame Weasley.
Ok.
Voilà, c'était pour les deux non présents finalement au casting, mais qu'on salue, hein, évidemment. Ma deuxième anecdote concerne le personnage de Rubeus Hagrid. Personnage extrêmement imposant, hein, ayant un physique vraiment particulier, et interprété par Robbie Coltrane.
Ouais.
Seulement Robbie Coltrane, qui est quand même déjà plutôt massif, était parfois pas suffisamment massif en fait pour les plans et pour les perspectives. Et on a donc utilisé un doubleur, un autre comédien qui était d'ailleurs
moi je croyais qu'il mettait de la mousse
pour qu'il paraisse plus massif, donc on prenait quelqu'un de plus grand pour les plans un petit peu plus rapprochés, par exemple. Voilà, et de dos également,
et je l'ai remarqué, tu le vois dans le plan du début quand Hagrid retrouve la famille, tu sais, dans l'espèce de truc isolé. T'as un plan qui se cale et en fait il a une expression vraiment bizarre et en fait tu captes que c'est un masque sculpté sur le, enfin moulé sur le visage de Robbie Coltrane qui a été foutu sur un autre comédien. Si vous regardez bien, checkez bien, il y a un plan, il y a un plan d'ensemble où tu le vois de loin et en fait tu grilles ce truc là.
D'accord.
Ouais. Okay.
Richard Harris qui interprète Albus Dumbledore dans les deux premiers volets a une histoire assez particulière avec ce rôle. Puisqu'à la base, c'est un rôle qu'il ne voulait pas du tout faire, qui ne l'intéressait pas du tout. Et il l'a fait pour une raison assez marrante et mignonne. C'est parce que sa fille, qui à l'époque avait 11 ans, non, sa petite fille, pardon, qui à l'époque avait 11 ans, l'a menacé de ne plus jamais lui parler.
Si jamais il faisait pas le rôle.
Il ne fera plus partie de ma famille.
Voilà. Donc, il a été un petit peu forcé jusqu'à son décès, puisqu'il décédera peu de temps avant la sortie de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Une dernière petite anecdote pour la route,
allez,
peut-être.
Allez, magie.
Alors, il faut savoir qu'en 2001, sur le plateau d'Harry Potter à l'école des sorciers, un chapeau de sorcière ainsi que des pièces de monnaie ont été volées et ont été retrouvées ensuite en vente sur eBay. Mais il s'avère que ça s'est repassé sur le tournage d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, où ont été volées directement dans le coffre-fort plusieurs photos de promotion qui n'avaient jamais été sorties à l'époque. Et donc la production du film a essayé de les racheter sur le marché noir et n'a jamais réussi à les racheter. Mais ces clichés ne sont jamais apparus sur la toile. C'est-à-dire qu'ils ont été volés et aujourd'hui on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.
Il y a peut-être un fan.
Ils se sont rendus compte que c'était Daniel Radcliffe en fait, déjà du haut de ses 9 ans.
Ok, bon, génial.
Eh ben, c'est tout pour moi.
Merci beaucoup, Paul, pour ces anecdotes et cette impressionnante imitation de l'autotune, effectivement, qui nous a un peu tous surpris. Alors, vous avez des mouchoirs un peu partout pour vous essuyer les oreilles si ça saigne un peu. Et on passe sans plus attendre à l'analyse d'Henri. Quelle transition incroyable,
ah,
vous avez
pu le voir. Petite question, est-ce que vous aimez John Williams?
Oui.
Est-ce que vous aimez la magie?
Oui.
Est-ce que vous aimez l'esprit de Noël?
Oui.
Est-ce que vous aimez dire oui? Parfait. Bah, vous avez droit à un Fizz with Bees, à un choco grenouille, pastille de gerbe, dragée surprise de Bertie Crochu ou même une bière au beurre, le tout sur des chansons de Noël chantées à la bouche pendant que vous me refaites un dernier beau grand.
Oui.
Une bonne bière.
Bah ouais, Noël est passé, la projo en ciné-concert est passée également, puisque le film était diffusé en ciné-concert. 2022 est arrivé, mais ça n'empêche pas de rester encore un tout petit peu dans cet esprit enchanté et de s'y lever pour se réconforter. Oh, c'est joli. Et on va donc se pencher sur Harry Potter, enfin sur la musique, hein, pas sur lui. Pas envie de me prendre un Inspecto Patronum dans la poire, non mais... Alors déjà, est-ce que vous aimez la BO d'Harry Potter et qu'est-ce que ça vous évoque en deux mots?
Je la trouve, elle va très bien avec le film parce qu'elle a vraiment ce côté magique.
Il n'y a pas de mots.
Il n'y a pas de mots.
Aucun mot ne suffise.
Non, oui, non, c'est vrai.
Oui, t'as l'impression d'être transporté. Bah, c'est immersif. Pour moi, ça a toujours été immersif, de toute manière.
Moi, c'est, je dirais, véritablement magie et nostalgie.
Moi, je dirais caca boudin. Parce que j'avais envie de dire deux mots à la con.
Ah,
c'est grâce à tes.
Eh bien, figurez-vous que chez certains béophiles assez vénères, ce n'est pas nécessairement considéré comme du grand cru Williams, ce Harry Potter étant souvent classé dans la catégorie Williams de Noël, avec Maman j'ai raté l'avion notamment, car Williams ne se reposerait finalement bien plus, se reposerait bien plus sur les formules magiques diverses, voire éculées, que sur une vraie et totale inspiration nouvelle. Et ben j'aurais envie de dire, bah oui, alors qu'est-ce que ça fout? Un soupçon de sortilège mélodique et symphonique williamsien, perso, moi je pourrais jamais y résister, ça ne se refuse pas. Et ce qui va impressionner d'emblée, c'est cette faculté à émerveiller dans une atmosphère, une tonalité mêlant archétypes spécifiques à ce type de récit, donc Célesta, cordes virevoltantes, cuivre massif, intimidant, cœur mystérieux et presque incantatoire, contrebasse et violoncelle, etc. Les premières notes, et surtout la première explosion du thème principal, donnent le ton du sortilège symphonique du vieux magicien maestro d'entrée de jeu. Et il ne lui faudra que peu de temps pour enfiler sa cape de sorcier, ou d'invisibilité comme tu disais tout à l'heure, pour provoquer l'enchantement total, en invoquant son génie insurpassable et enchaîné par un nombre impressionnant de motifs, leitmotifs et thèmes, dont la charpente thématique virevolte entre élan magique et envoûtant, mélodie ténébreuse et mystérieuse, mais surtout un sens de l'émotion touchant, réconfortant, happant le cœur de l'auditeur et auditrice avec une sensibilité et une aisance désarmantes une fois de plus. C'était vraiment une très longue phrase. En fait, ce qui frappe surtout, c'est que Williams ici ne cherche pas tant à personnifier mélodiquement tous les persos, même si plusieurs d'entre eux ont des leitmotifs associés. Tu veux que je refasse la phrase peut-être, s'il te plaît?
Moi aussi, ma certaine pour Williams pas de...
Alors, pardon.
En fait, ce qui frappe surtout, c'est que Williams ici ne cherche pas tant à personnifier mélodiquement tous les persos, même si plusieurs d'entre eux ont des leitmotifs associés, mais plutôt à faire vivre, exister et créer un monde dont la magie au sens propre est l'élément caractéristique premier. Et là, je vais revenir sur un point. Harry Potter est rangé par beaucoup de béophiles, de manière péjorative ou non, dans la catégorie film de Noël williamsien. On trouvera dans cette catégorie donc les Harry Potter, les Maman j'ai raté l'avion, mais c'est aussi Hook. Et au final, thématiquement, bah, qu'est-ce qu'elles ont, ces œuvres, en commun? Est-ce que vous le savez?
C'est relié à l'imaginaire et à la magie.
Bien, ouais. C'est quoi? C'est You Win.
You Win.
On pourrait dire Fatality ou machin,
yes,
mais c'est pas.
Bien joué.
En fait, effectivement, l'envie de traiter de l'enfance via la magie. Donc la magie pure pour Harry Potter, la magie délivrée par le pouvoir de l'imaginaire dans Hook, et la magie qui fait rêver tous les enfants dans les films Maman j'ai raté l'avion, à savoir la magie de Noël que l'on vient de passer. Et c'est donc clairement dans ces grimoires, ou plutôt cette portion encore intacte en lui, que le magicien Williams a été puisé, expliquant les similarités orchestrales, tonales, évoquant d'emblée, de par ses mouvements de cordes enveloppants, ses cuivres triomphants et flamboyants, ce célestin mystérieux et évidemment cette richesse thématique étourdissante, ce sentiment de nous-mêmes découvrir un monde enchanté, rassurant, réveillant notre fibre imaginaire provenant directement de notre enfance. Et ainsi, bah, virevoltante, envoûtante, chaleureuse, voire parfois l'inverse, inquiétante et immisçant un sentiment de mystère enivrant, Williams prouvait alors en 2001 qu'il était toujours le boss, en imposant en un film et de manière définitive un nouvel univers symphonique après celui de Star Wars dans les années 70 et celui d'Indiana Jones dans les années 80, marquant l'histoire du cinéma une fois de plus, notamment avec le thème de Hedwige, qui est aujourd'hui régulièrement placé dans les listes des plus grands thèmes de l'histoire, et ce peu de temps après sa création. Et en ce sens, bah, ce Harry Potter pouvait, dans ce style, presque sembler le vrai barreau d'honneur en amont du compositeur, parce que après, même s'il a continué à faire des très bonnes musiques pour Spielberg, c'est vrai que cette maestria, en fait, même, tu vois, par exemple, la BO des derniers Star Wars est quand même déjà un peu plus décriée ou considérée comme étant pas nécessairement du Williams en haut de sa forme, même si ça reste bien au-dessus du panier de beaucoup de compositeurs. Mais donc, d'une certaine manière, quand tu vois un petit peu l'effervescence qu'il y a dans les trois films qu'il a fait, parce qu'il faut préciser qu'il a fait les trois premiers Harry Potter et qu'il a clairement marqué d'une charte définitive l'Harry Potter, à tel point que ça continue à perdurer dans les Animaux Fantastiques, même si les BO de James Newton Howard sont très bien. Mais voilà, c'était un petit peu son barreau d'honneur. Et si ça, c'est pas de la vraie magie.
Ouais.
Ouais.
Merci beaucoup, Henri, pour cette magnifique chronique. Quoi dire après ça, effectivement, c'est totalement vrai. Voilà, en tout cas, c'était une magnifique émission, magique, à faire avec vous une nouvelle fois. Notre émission s'achève, malheureusement. On aura bien développé entre Jules, John Williams et Hagrid et son faux masque.
Maintenant, il est temps d'aller prendre le train.
Oui, c'est ça, pour aller s'envoler.
Se retrouver sur le quai de gare.
Pas mal.
À pas se prendre un mur, attention. Chouette.
Oh, il a pas
vu. Ah oui, effectivement.
Il vient de comprendre maintenant, j'adore.
Ah, génial.
Il est trop.
Bon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On a été heureux de vous retrouver pour cette émission de la rentrée, enfin de la rentrée 2022. On peut nous retrouver où, Paul?
Sur SoundCloud,
ouais.
Sur Spotify,
ouais.
Sur
Mixcloud, sur iTunes,
Deezer aussi. Non, pas Deezer.
Deezer, non, 9h je crois.
Ah. Et sur Apple Podcast. Et évidemment notre page Facebook, la note originale.
Bien sûr, exactement. Merci beaucoup.
Rejoignez-nous, venez en masse, on fait des petits jeux.
Oui,
la
effectivement, des énigmes, ouais. Voilà. Tous les mardis soir.
Participez.
Voilà. Donc, nous, il ne nous reste plus qu'à dire quoi. Notre slogan. Et
surtout
n'oubliez pas d'écouter des films. Une bonne journée à tous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Salut.